Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes comment a été simplifiée l'interface utilisateur de ce grand super robot qui fait 4 étages de haut. En langage technique, on dit méca. Dans les années 1980, à Toulouse, une troupe de théâtre de rue fait sensation en manipulant des engins imposants durant leur spectacle, la troupe Royale de Luxe. Ils ont cuit à la broche un autobus et fait accoucher une péniche en double fil boulevard de Strasbourg. Suite à un conflit avec le maire d'alors, Dominique Baudis, qui en tant qu'ex-picrine préférait les spectacles à la télé plutôt que bloquant les grands boulevards, Royale de Luxe s'exila à Nantes où ils monteront les machines de Lille. Et là, enfant du futur immédiat, tu me dis, c'est quoi le rapport? Ben, ils ont créé des marionnettes à l'échelle titanesque, soit de forme animale, comme leur célèbre grand éléphant à Nantes, humaine, comme celle de l'ouverture du Mondial 1998, ou mythologique, comme un Minotaure. Oui, ce même Minotaure qu'on a à Montaudran, dans la halle de la machine. Eh ben, figure-toi que la même mairie de Toulouse a payé fort cher la licence à la même équipe 25 ans après les avoir virés. Good game, comme on dit sur Internet. Facepalm a dû faire la cour des comptes d'Occitanie. Revenons au moment où Royale de Luxe quitte Toulouse et laissons filer le temps. En 1993, entre autres crimes contre l'humanité, et à peu près au même moment où j'apprenais à piloter une nacelle télescopique automotrice de 30 mètres, je devins l'un des rares chroniqueurs bande dessinée sur un média audiovisuel à traiter la manga de la même manière que je le faisais avec la bande dessinée franco-belge. Ce statut, qui oui à l'époque était très rare, m'a très vite accroché comme cible d'un bombardement de services de presse des grands éditeurs, lesquels préféraient parfois m'envoyer exclusivement leurs mangas plutôt que les BD, ce qui me désespérait un peu. Mais cela m'a permis d'approfondir ma culture générale sur le pays d'où venaient les dessins animés qui hérissent étant Ségolène Royal. Depuis, elle est passée à des
colères qui sont parfaitement saines.
Donc, je reprends. Entrant dans le petit landerneau des chroniqueurs du 9e art ne snobant pas les mangas, j'ai lié d'amitié avec le fondateur des éditions Tonkam, Dominique Véré, qui m'a fait découvrir la culture pop japonaise sur des plans bien plus larges, allant du J-rock, la techno, l'art, les dramas live historiques, et j'en passe. Voilà comment je me suis intéressé à des artistes comme Julie Watai, qui signe des collaborations avec des marques industrielles pour mettre en avant des photos assez étonnantes, ou encore Hiroko Ikeuchi, qui déconstruit reconstruit des appareils pour en faire des exosquelettes cyberpunk. D'ailleurs, il signe actuellement une campagne pour Balenciaga, preuve que Marc Bauger peut se moquer d'une partie du catalogue de cette marque de haute couture, mais qu'ils peuvent aussi oser avec classe. Plouf plouf, replongeons dans nos années No Life. En 2015, lors de nos premières releases de CPU, on discutait dans l'équipe d'un teasing qui nous a fait marner. Suidobaichi EV Industry, respectable entreprise japonaise, avait construit Kuratas, un mecha réel, un vrai robot de combat sportif, armé de paintball et surtout le sens de détail qui fait toute la réputation des produits venant du soleil levant. Titillé par le défi technique, une autre boîte, Megabots, américaine celle-là, a monté le sien dans la foulée grâce à un Kickstarter de 1,8 million de dollars. N'oubliez pas qu'il est de tradition dans ce vaste pays de construire des monster trucks, des 4x4 surélevés s'amusant à écraser dans une arène une rangée de voitures, souvent de marque japonaise, sous les vivas d'une foule surexcitée louant le puissant V12 qui a créé et préservé leur nation. Ronin versus Redneck. On ne pouvait imaginer mieux qu'une confrontation entre un gros robot du Japon et un des États-Unis, ce qui a plus de gueule qu'un combat de mini-robots Sumotori, grand comme un CubeSat et bien moins sanglant que les combats aériens de la guerre du Pacifique. Finalement, nous n'eûmes droit qu'à une vidéo de 5 minutes postée sur YouTube et franchement, mou du piston. Et encore, la vidéo est fortement remontée, même le journaliste sportif de la BBC a manifesté sa déception à l'antenne, c'est dire. Et entre-temps, on a compris que cette confrontation n'était qu'une cascade publicitaire pour une chaîne du câble.
Le combat dans son entier est disponible sur notre service de vidéo à la demande pour seulement 15 dollars.
Et en Europe, cela fait une vingtaine d'années que les bandes dessinées entrent enfin dans les musées français généralistes. Au même moment, et toujours au Japon, c'est ce genre particulier de science-fiction, celui des grands robots, qui fait régulièrement l'objet d'expos dans les musées de technologie. Quand on ne croise pas un mobile suit Gundam faire un footing du côté de Yokohama. Même irréaliste, il titille l'imagination des ingénieurs et donne une formidable occasion de découvrir les sciences de l'ingénierie appliquées ou des bandes dessinées de Jean-David Morvan. Alors, en cette fin d'année, faute de pouvoir en approcher un tous les jours, on aimerait bien savoir si les progrès en termes de stockage électrique, de puissance énergétique restituée et d'assistance par système embarqué peut nous faire rêver ou paniquer à l'idée d'une connexion en remote access sur ce type d'engin. Et non, enfant du futur immédiat, je n'ai pas mis un mecha dans ma liste au Père Noël, mais je ne dirai pas non pour jeter un œil sur son SDK, son kit de développement logiciel.